J'aimerais juste dire avant de commencer que pour écouter un enseignement, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Que ce qui est important, c'est juste d'entendre, parce qu'on entend toujours les mêmes trucs. Et puis de se focaliser sur ce qui fait sens, plutôt que de chercher absolument à comprendre ce que de toute manière on entendra à nouveau si on continue sur ce chemin. Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur les choses telles qu'elles sont. Parce que dans une retraite, dans nos vies, c'est peut-être un peu moins visible. Nous sommes assez souvent dans les projections, les regrets, les interprétations, les évaluations, les imaginaires, les histoires diverses et variées. Et nous sommes là pour faire de l'ordre, pour voir c'est quoi les choses telles qu'elles sont, et c'est quoi les choses que je crée mentalement, et comment comprendre, ou plutôt comment prendre ma responsabilité. Oui, c'est moi qui crée l'instant. Nous le créons entièrement. Bien sûr, avec l'aide de l'extérieur qui stimule notre création, mais c'est nous qui créons. Et la méditation nous montre comment nous avons le choix peu à peu de choisir comment je veux créer mon monde, plutôt que de le laisser se choisir pour nous. Alors les choses telles qu'elles sont, elles peuvent être seulement maintenant, mais on peut aussi après coup réfléchir, ok, c'était comment? Et puis, quel est le remède pour pouvoir retrouver un équilibre intérieur? Je me souviens d'une fois où mes petits-enfants, j'en ai trois qui ont 10, 11, 12 ans, ils m'avaient vraiment mis hors de moi. Bon, des fois, ils font un peu exprès, je crois. Ils aiment bien grand-maman. Et puis, vu que tout ce que je disais n'avait aucun effet, j'étais sortie, j'avais claqué la porte, puis j'étais allée m'asseoir sur mon lit, puis ce qui était venu, c'était... Je sentais... Ce qui était venu, c'était, mais tu leur enseignes quoi? Puis la voix qui était venue, c'est « Va dans le corps !» Ah ouais. Et je sentais bien tout ce mouvement de colère qui était là. Et le fait d'aller y sentir les choses telles qu'elles sont, pas telles que je les aimerais ou telles que je juge. Et c'était très intéressant énergétiquement, parce que je n'avais aucun pouvoir sur eux avant. Mais je suis entrée dans la chambre, j'avais mis on, et puis immédiatement, ça s'est tout calmé. Ils ont senti qu'ils avaient quelqu'un en face. Pas ces espèces de zombies qu'on est des fois, fatigués, mais qui fait tout sur pilote automatique. Les choses telles qu'elles sont. D'une certaine manière, c'est une unification entre le monde extérieur et tout le monde intérieur. Elles sont comment les choses pour vous maintenant? Elles n'ont vraiment pas besoin d'être autrement que comme elles sont. C'est cette qualité de sammasati, cette présence qui est équanime, impartiale, qui sait, qui est sage, qui sait que les choses changent, que c'est quelquefois génial, quelquefois terrible, monstrueux, que ça n'est pas ma faute ni la faute des autres, il n'y a pas une erreur quelque part. Qui sait que il y a un refuge possible autre que dans la croyance à ce qui change, dans la croyance à ce monde des perceptions. Et quand nous observons l'expérience, nous pouvons voir combien nous sommes dans l'espoir. L'espoir d'avoir le calme. L'espoir de comprendre. C'est quoi Anatta? C'est quoi ce non-moi? Il y a une petite parole, je crois que c'est dans le Mahabharata ou dans un des livres de sagesse hindoue qui dit « Seul le désespéré est heureux ». Parce que le désespéré, il est là. Il n'a plus cet espoir qu'il projette toujours à l'extérieur. Ah, si seulement. Mal au genou. Les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en quête d'unification et nous créons sans cesse la séparation. Et ça sert à ça une retraite. C'est vraiment essayer de plus en plus de coller au maintenant d'une manière simple. Mais le moi, il aime bien que ce soit compliqué. En fait, que ce soit tout simple, il s'ennuie. Alors il crée. Combien nous créons dans une retraite parce que nous nous ennuyons? Alors on crée pas forcément des trucs chouettes, c'est ça qui est bête. On crée tout un problème autour de quelqu'un qui m'a dit quelque chose, ou qui m'a regardé, ou qui m'a pas regardé, ou mon Dieu, si je fais ça, tout le monde va voir. Et nous ne voyons pas que nous sommes en train de créer. Nous sommes embarqués. Nous sommes embarqués dans ce qu'on appelle les sankara, les fabrications mentales, qui sont aussi du karma, c'est aussi des formations karmiques. Nous créons un monde qui n'est pas réel. Donc la question de savoir est-ce que je suis là, avec quoi est-ce que je suis là, et comment est-ce que je suis là. Quand je ne suis pas là, il n'y a pas de problème, je ne suis pas là. De toute façon, je ne pourrais pas y être. Mais quand je reviens, ah ouais, ben j'étais pas là, maintenant je suis là. Ah ouais, ben j'étais en train de créer, déjà de repérer. Oui, j'étais en train de créer. Au niveau mental, le corps oublié, l'espace, le silence absent du tableau, les autres, j'étais toute seule à créer. Et nous aimerions tellement être ensemble, appartenir, se sentir unifié. Donc de voir ça, après coup. Et juste maintenant, il y a peut-être un tout petit moment de calme. Et je peux sentir comment c'est. Et comment est-ce que je suis là est toujours tellement important. Parce que nous avons une telle habitude de juger tout ce qui arrive que, en général, je suis là avec le petit flic qui dit oh, bon, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vous dis ça? Ouh, il faudrait pas que j'ai ce contrôleur. Eh ben non. Parce que les choses telles qu'elles sont, c'est comme elles sont. Et quand le contrôleur est là, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la conscience. Ah, là, il y a ce petit contrôleur. Et je l'ouvre avec bonté, en acceptant le qui suis-je, en acceptant les choses telles qu'elles sont maintenant. Et nous sommes vérifiés toujours plus profondément. Quand nous avons appris à reconnaître l'aversion, alors voilà qu'il y a un sentiment d'injustice plus puissant qui vient et nous croyons très fort à cette injustice. Et la haine devient très forte. Nous n'en avons jamais fini. Donc n'espérons absolument pas en finir avec quoi que ce soit. Mais faisons tranquillement notre part, moment après moment, avec les joies de l'incertitude. Nous ne savons pas ce qui va émerger. Ni, alors maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne sait plus au niveau de la société. Avant, on avait une espèce de vague. Disons que c'était là-bas plus loin. On savait bien que ça allait venir, mais c'était là-bas plus loin. Là, ça se rapproche. Dans nos vies, nous voyons bien que nous ne contrôlons rien. Quand il y a un accident, quand il y a une maladie, quand que ce soit moi ou l'autre. Alors, comment accueillir les choses telles qu'elles sont et peu à peu trouver cet espace à l'intérieur où nous ne sommes absolument pas indifférents, mais où nous sommes dans l'équanimité. Et l'équanimité, c'est une empathie en général, parce que je sais que je pourrais être n'importe lequel d'entre nous sur cette terre, aussi bien un Russe qu'un Ukrainien. Mais c'est aussi la compassion quand c'est douloureux. Ben, c'est les choses telles qu'elles sont. Alors, j'essaie de ne pas réagir. Et la notion du karma peut aider beaucoup. Quand il y a une douleur, en tout cas moi ça m'aide beaucoup avec mon genou. Quand mon genou fait vraiment très mal, je dis merci, merci, merci. Parce que ça purifie karmiquement. Des histoires, on ne sait pas d'où elles datent, cette incarnation, une autre. Mais le fait d'être en compassion avec une douleur, qu'elle soit physique ou psychique, a un effet sur l'émergence de notre sagesse, l'émergence de cette équanimité, qui fait qu'il y a une force intérieure et elle peut s'ouvrir à la souffrance du corps, le mien, celui des autres. La compassion, ça n'est pas ne pas pleurer, mais c'est pleurer en restant totalement ancré dans la conscience que c'est impermanent. Et qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y a personne. C'est Christelle qui a parlé, je crois, elle m'a dit hier soir, de ces trois caractéristiques. Dukkha, le monde est imparfait, il est douloureux par nature, beau aussi, mais douloureux. il est impermanent. Et puis, j'ai beau croire qu'il est réel, c'est une impression. Il est réel, mais il est réel maintenant, dans le temps. Il était tout autant réel il y a 10 ans, quand j'avais 20 ans. Si vous imaginiez comment je vivais le monde quand j'avais 20 ans. C'est merveilleux. C'était franchement pas moi. Franchement. Eh ben, je disais quand même moi, puis maintenant j'ai un peu l'impression que c'est ce même moi, mais pourquoi? Parce que j'ai un certain bagage. Donc, se dire que si ça fait mal, c'est pas pour rien. Ça veut pas dire que je ne vais pas de temps en temps prendre une aspirine, faire ma part. Moi, de toute façon, j'ai bien fait ma part. J'ai 2 hanches opérées, une épaule. J'ai plein de ferrailles. Là, je me suis cassé le poignet, je me suis cassé l'épaule. Enfin, bref, quand je passe dans les machins là-haut. Dans les aéroports, enfin, j'y vais plus, tout va bien. Ça sonne fort. Les choses telles qu'elles sont, est-ce que nous osons leur faire confiance? C'est ok, je peux prendre ma place dans ce monde. Tel que je suis et pas tel que j'espère être ou j'aimerais être. Quand le Bouddha parle de la première vérité, dukkha, il dit la naissance est souffrance, la vieillesse, la maladie et la mort sont souffrances. Être séparé de ceux et de ceux que j'aime est souffrance. Être lié à ceux et ceux que je n'aime pas est souffrance. Et les 5 agrégats de la saisie sont souffrance. J'aimerais prendre un tout petit moment pour reparler de ces 5 agrégats qui nous empêchent, ou disons qui sont importants pour voir les choses telles qu'elles sont. Lorsque je suis paumée dans mes histoires et que je le vois, je peux revenir en arrière. Ok, quel était le contact? C'est le premier des agrégats, Kanda en pali. Alors par exemple, quelqu'un me dit « il y a Luc qui a rigolé ». Alors qu'est-ce que ça fait « il y a Luc qui a rigolé » ? Ça fait que l'oreille entend, il faut une oreille pour entendre, et ça crée un ressenti. Ça peut créer un ressenti neutre, alors il n'y a pas de saisie, il y a plein de ressentis toujours qui sont neutres. Ou ça peut créer un ressenti agréable ou désagréable. Imaginons que ça crée quelque chose, disons de désagréable, parce que l'agréable, on n'a pas tellement envie de le regarder. Quelque chose de désagréable. Et puis, sur ce désagréable, nous allons construire des pensées associatives, ce qu'on appelle la perception. C'est-à-dire que nous allons colorer subjectivement, Luc a rigolé, de « Ah ouais, mais pourquoi est-ce qu'il a rigolé? Est-ce que j'ai dit quelque chose de... Est-ce que je me suis rendu ridicule? Ou bien... Est-ce qu'il se moque de moi ou bien... Quelque chose se crée sur la base du passé. C'est ce qu'on appelle la perception. Si c'est quelque chose de plus simple, juste une mouche qui se pose là, il y aura un ressenti et l'image, une mouche s'est posée sur ma joue. Et ça, c'est quelque chose qui est... totalement spontané et dans la loi de cause à effet, c'est un effet. On ne peut rien faire là-dessus. Avec la plus grande sagesse du monde, nous ne pouvons pas avoir un effet sur ces trois premiers agrégats du contact, du ressenti et de la perception ou de la représentation. Quand le Bouddha, je donne souvent cet exemple parce que c'est le Bouddha. Quand le Bouddha a perdu son disciple préféré, Sariputra, il a dit, c'est comme si le soleil ne se levait plus à l'horizon. Donc ce contact avait créé un ressenti très douloureux et des perceptions de perte importantes. Mais il s'est arrêté là. Et nous, en général, lorsque nous n'avons pas suffisamment entraîné l'esprit, nous ne nous arrêtons pas là. Nous continuons. Ce qu'on appelle les fabrications mentales, les sankhara en pali. Et c'est là que commence l'histoire. Ah, oh, il s'est moqué de moi, pourquoi il a rigolé? Mais attends, ah ouais, j'aurais dû faire comme ça, il n'aurait pas rigolé. Et c'est intéressant parce que le sankhara recrée le contact d'une certaine manière. C'est un contact qui serait terminé, on en aurait fini avec l'histoire. Mais comme j'y pense, je recrée la chose et je l'amplifie. Et c'est ça qui crée des haines, des fois transgénérationnelles. Lorsque nous ne savons pas voir les choses telles qu'elles sont. Et tout ça est bien sûr accompagné du cinquième des agrégats qu'est la conscience ordinaire. Cette conscience est stimulée, il y a du jus quelquefois. C'est la conscience qui va saisir une parole que l'autre a dit. Et puis le voisin d'à côté, il ne la saisirait pas. Mais je crois que c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que je crois que c'est vrai. Et je ne vois plus du tout la subjectivité de toute l'histoire. Donc nous pouvons commencer à rebours. Quand je vois, bien sûr on peut faire le truc contact, perception, ressenti dans ce sens-là, mais en général ça va à rebours. C'est-à-dire que je vois, ah là j'ai conscience qu'il y a un obstacle, par exemple. C'est l'obstacle de l'aversion. Quelles sont les formations mentales? Ouais, non, c'est pas une très bonne façon de faire, parce qu'en général, il y a les formations mentales avant la conscience de l'obstacle. Là, je confonds un peu avec la sagesse. Disons autrement. Là où vous pouvez arrêter le processus, c'est vraiment juste avant les constructions. Mais pour pouvoir arrêter avant les constructions, il faut déjà avoir été habitué à les voir, ces constructions. Si je ne leur donne jamais aucune attention, je ne vais pas pouvoir arrêter le processus. Donc les choses telles qu'elles sont, c'est quelquefois des pensées. Et là, nous pouvons soit aller dans les pensées individuelles, l'histoire que ça raconte, ou bien, je l'ai déjà dit, je le répète, dans la pensée. D'ailleurs, le Bouddha dit contempler les pensées comme des pensées. Attends, cette pensée, c'est quoi comme pensée? Si elle était chez quelqu'un d'autre, par exemple, il ferait quoi ce quelqu'un d'autre? Il serait en train de faire quoi? Ben, il serait en train de faire des jugements, ou bien des évaluations, ou bien il serait en train d'avoir des opinions fixes, ou bien il serait en train de critiquer, ou de projeter. C'est aussi quelquefois, souvent dans une retraite, des pensées sages qui peuvent être repérées. Ah ouais, ça c'est du discernement. Je suis en train de faire du discernement, le reconnaître et l'élaborer. Et puis après, nous pouvons voir qu'est-ce qui crée ces formations. Et le seul but de faire tout ça, c'est de pouvoir lâcher prise. Et ces formations, elles sont créées, là en ce moment, je suis en train de faire des formations, de créer des formations mentales. C'est tellement évident qu'elles sont créées sur un bagage qui est riche de données extérieures, qui a même fait presque rien que de données extérieures finalement. Ces données sont emmagasinées, elles sont travaillées, elles sont retournées dans tous les sens. Et puis, à partir de là, ces créations arrivent. Et ces créations, elles sont toujours liées, nous formons un tout, elles sont liées au corps qui crée, qui permet les contacts à travers les sens. Et un des sens dont parle le Bouddha, c'est l'esprit. L'esprit est un sens, c'est une porte qui peut ouvrir à tout ce processus. C'est pour ça qu'une pensée peut créer tout le processus des cinq agrégats. De même qu'un son, une sensation physique, un contact visuel, quand on se regarde à deux dans le dialogue conscient, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se crée. Et bien sûr, le goût, l'odorat. Tout ça à partir d'un contact. Et pourquoi on appelle ça les agrégats de la saisie? C'est que lorsque l'esprit n'est pas cultivé et que nous ne pouvons pas voir les choses telles qu'elles sont, nous prenons tout ça pour du vrai. Et nous ne pouvons pas faire ce travail de témoin, d'observateur. Et nous ne voyons pas que ce que nous prenons pour du vrai est totalement conditionné par le contexte, par les personnes qui sont là. Tout dépend finalement du contexte. Je ne me verrai pas parler comme je vous parle, par exemple, à mon beau-fils. Il me prendrait pour une vraie dingue, quoi. Je vous dis une petite parole que je lis souvent, mais ça ne fait rien. Elle est rigolote. Un couple décide de passer des vacances dans l'île où ils avaient passé leur lune de miel 30 ans auparavant. Lui arrive un jour plus tôt, venu directement depuis l'endroit où son travail l'avait envoyé. Arrivé à l'hôtel, il envoie un mail à sa femme pour être sûr du jour de son arrivée. Mais en écrivant l'adresse e-mail, il se trompe d'une lettre et son message arrive chez une vieille dame dont le mari, pasteur retraité, est décédé le jour précédent. Et voilà le message qu'elle lit. « Ma chérie, oui, le voyage est terminé et je suis finalement arrivée. J'ai été surpris de voir qu'ils avaient aussi ici une correspondance e-mail. Ils me disent que tu vas arriver bientôt. Ce sera bon d'être de nouveau ensemble. Je t'aime, comme toujours. PS, sois préparée. Il fait vraiment chaud ici en France. voir comment ces formations, ces fabrications sont codépendantes, interdépendantes, des choses telles qu'elles sont. Et c'est le chemin est beau parce que nous pouvons être dans quelque chose d'extrêmement simple et c'est largement suffisant, le corps maintenant. Et quand il y a l'énergie, quand c'est le moment, nous pouvons élaborer autrement, mais ça n'est pas nécessaire. Des fois, quand on parle d'observer les émotions perturbatrices, ou bien il y en a qui viennent en entretien tout déprimé parce qu'ils n'ont pas d'émotions perturbatrices. Tout va bien! Donc, nous repérons les formations mentales à l'extérieur, combien le nous groupe crée de manière subjective sans le voir. Avant c'était le Covid, maintenant c'est l'Ukraine. Et nous pouvons voir à l'intérieur combien les fabrications mentales, combien nous identifions, combien nous croyons tellement que c'est vrai. Et un gros problème qui nous prenait à la gorge, qui nous tenait le ventre, qui nous empêchait de parler. Après, c'est fini, hein? C'est vraiment fini. Nous créons notre monde. Donc, il y a des formations mentales qui sont causes. Nous avons un bagage qui est la cause de notre manière de saisir l'expérience. Nous ne la saisissons pas tous la même chose. Elle est dépendante de tout ce passé. C'est la pensée associative. Et puis, il y a la pensée maintenant, juste maintenant, je suis en train de créer le monde. Et vous êtes en train de le créer avec votre manière d'accueillir les paroles que je partage. Nous sommes en train de nous conditionner. Nous sommes des êtres conditionnés. Alors là, nous nous conditionnons de manière bénéfique parce que nous allons vers la libération. Et puis il y a un résultat, c'est qu'à un moment donné, c'est créé, ça y est. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je n'ai aucun pouvoir sur l'effet que ça aura à l'extérieur. Ce qui compte dans tout ce processus de création, c'est l'intention. Et dans nos vies, quand nous ne savons pas si nous devons parler de quelque chose ou pas, quelle est mon intention? Si j'ai une intention de compassion, de libération, une intention bienveillante, après je fais au mieux. relis une petite parole de Wellwood qui dit bien comment on peut voir les choses telles qu'elles sont et comment cet observateur est en fait puissant. C'est un petit bout de Perfect Love in Perfect Relationships. Alors vous commencez à découvrir que la bête et la beauté vont main dans la main. La bête n'est en fait rien d'autre que votre beauté blessée. C'est la beauté qui a perdu confiance en elle-même parce qu'elle n'a jamais été pleinement reconnue. Ne pas croire que nous sommes aimés et dignes d'amour a engendré les réactions émotionnelles les plus bestiales. Colère, arrogance, haine, jalousie, dépression, insécurité, avidité, convoitise, peur de perdre et d'être abandonné. La bête a un certain pouvoir, celui de dire non et de se fermer dans les défenses du moi. Elle nous coupe d'un pouvoir plus grand, c'est la capacité de dire oui. Comme la grâce du danseur s'exprime dans les mouvements, les sauts, la souplesse, en lien avec la musique. Notre beauté se révèle dans notre capacité à nous ouvrir à la réalité et à chevaucher les courants changeants de la vie. La bête blessée, c'est seulement la fermeture de cette merveilleuse faculté de grâce et de fluidité. Un pied dans chaque monde, un pied dans le monde conditionné dans lequel nous nous engageons avec courage et confiance et quoi, je vous laisse mettre le troisième. Avec quoi est-ce que vous vous engagez dans la vie?
Sagesse.
Mm-hmm. Quoi d'autre?
Présence. Compassion.
Mm-hmm.
Compassion.
Patience.
On est obligé d'être positif ou...
Les choses telles qu'elles sont, Xavier. Tu t'engages comment, toi?
Alors, moi, je peux mettre tous les mots un peu moins positifs, mais je peux mettre le doute, la peur.
Oui, mais tu veux pas t'engager avec doute.
Non. Non, bien sûr qu'il y a, on essaie. Ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a des fois le doute. C'est les choses telles qu'elles sont.
La sagesse, je travaille dessus. C'est... Ouais. Arrive, la voix, elle est au bout du chemin.
Puis elle est aussi maintenant, juste maintenant, ouais. Tu la vois. C'est important. Hein? Chaque fois qu'il y a un moment de présence, c'est un moment de sagesse. Donc ce qui purifie tout ça, ça n'est pas une autre expérience. J'espère que vous avez bien compris. Les choses telles qu'elles sont, c'est la question... Est-ce qu'il y a, en anglais j'aime beaucoup le mot knowing, parce que c'est pas quelque chose de terminé, c'est un processus. Est-ce qu'il y a ce processus de présence qui est là ou non? Et s'il y a cette qualité de knowing, je sais, je vois, ou je suis à l'écoute, ou je suis, je contemple, je reçois, on pourrait nous faire le tour pour savoir comment vous dites. Peu importe, on sent bien comment je coexiste en paix avec les choses telles qu'elles sont, maintenant. Et quelquefois, je le fais rétrospectivement pour faire le clair. je vais finir avec une parole du Dalai Lama. Prends soin de tes pensées parce qu'elles deviendront des mots. Prends soin de tes paroles parce qu'elles deviendront des actes. Prends soin de tes actes parce qu'ils deviendront des habitudes. Prends soin de tes habitudes parce qu'elles formeront ton caractère. Prends soin de ton caractère parce qu'il déterminera ton destin et ton destin sera ta vie. Eh oui. Ah. Je vous propose qu'on prenne un moment en silence.